À moi de vous souhaiter une joyeuse Pâques. Et ensemble, pour cela, nous allons étudier un passage de la Bible dans le livre du Lévitique. Ça fait quelques semaines, mois, que notre Église étudie ce livre de l'Ancien Testament, parmi les livres de Moïse, dans le Pentateuque. Alors, quel rapport Lévitique avec la résurrection de Jésus? Mais justement, comme cela nous avait été lu, Jésus, sur le chemin d'Emmaüs, avec ses deux hommes, eh bien, il leur a montré que les livres de Moïse, entre autres, avec les prophètes et les psaumes, que les livres de Moïse parlaient de lui, parlaient de Jésus, de sa mort et de sa résurrection. Alors, si je comprends bien, Jésus a étudié le Lévitique avec ses disciples le jour de sa résurrection. Donc, nous pouvons le faire aussi. Et le texte de Luc, qui nous a été lu par Victor tout à l'heure, l'Évangile dit que ces deux disciples... Oui, ils ont eu la joie de voir Jésus. Ils étaient très contents de voir Jésus. Ils ne l'ont pas reconnu de suite, mais ils l'ont reconnu. Mais ce qui les a vraiment touchés, ce qui a vraiment réchauffé leur cœur, c'était de voir comment toute la Bible parlait de Jésus, comme tout ce plan parfait a été dévoilé à leurs yeux. Et je vous soumets cette idée encore ce matin, ce qui confirme la foi chrétienne, ce qui confirme la résurrection. C'est non seulement le témoignage des apôtres dans le Nouveau Testament qui ont dit « Nous avons vu le Seigneur ressuscité, nous en sommes témoins, vous pouvez nous croire. » Mais aussi, lorsqu'on voit la richesse, la beauté, l'unité de tout l'Ancien Testament, comme ces livres, comme le Lévitique, qui est accompli par Jésus, par sa mort et sa résurrection. Et il faut le faire, même Jésus, il programme sa mort un jour de Pâques, un veille de sabbat, pour ressusciter un jour après le sabbat. Essayez de faire ça, programmer votre mort un jour pour correspondre à des siècles d'histoire et aussi votre résurrection trois jours après, pour correspondre à un livre, un ancien livre biblique. Non, donc que tout ce plan se dévoile à nos yeux, confirme encore le récit biblique. Alors ce matin, nous allons étudier Lévitique et ce sera plutôt un survol, un mot de conclusion avec ce beau parcours que nous avons fait depuis plusieurs semaines vers la demeure de ta sainteté. Donc je vous lis juste quelques versets en Lévitique chapitre 26 qui résume tout le livre en quelque sorte. Lévitique chapitre 26, versets 11 à 13. Dieu dit à son peuple, dans cette partie sur les bénédictions, il dit verset 11, « J'établirai ma demeure au milieu de vous, et mon âme ne vous aura point en horreur. Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte, qui vous ai tiré de la servitude. J'ai brisé les liens de votre joug, et je vous ai fait marcher la tête levée. » Et pour faire correspondre cela, je vais lire exceptionnellement d'autres passages en Jean, l'évangile de Jean, chapitre 2, verset 18. C'est un jour où Jésus purifie le temple, justement, ça nous rappelle Lévitique. Et juste après avoir fait ça, en Jean, chapitre 2, verset 18, les Juifs prenant la parole lui dirent, « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte, pour purifier le temple comme ça ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en trois jours, je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en trois jours, tu le relèveras. » Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Et puis, cette belle conclusion de la Bible en Apocalypse, chapitre 21, versets 3 et 4. Ce qui est une citation de Lévitique, plus ou moins. Apocalypse, chapitre 21, verset 3. J'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Et puis verset 22. Apocalypse 21, 22, « Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a pas besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortit du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servirent à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, et ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Il n'y aura besoin ni de la lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et régneront au siècle des siècles. Voyez, le grand projet du Lévitique et de toute la Bible, c'est de faire cohabiter Dieu et son peuple ensemble. C'est vivre avec Dieu dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu. Mais déjà se pose la question, veut-on vraiment habiter avec Dieu ? Des fois, on est bien chez nous, habiter chez quelqu'un d'autre, chez l'étranger, peut-être moins agréable. Alors, pour ce qui est des enfants, ce matin, je vous raconte une histoire. Les enfants, vous savez, vous connaissez peut-être cette histoire des enfants qui jouent au ballon dans un terrain vague qui appartient à un autre propriétaire, qui appartient à une maison. Cette maison semble abandonnée. En tout cas, ils ont peur du propriétaire, mais ils aiment bien jouer dans le terrain, donc... Ils s'y glissent furtivement et jouent. Les uns disent que c'est une maison hantée. Les autres enfants disent que le propriétaire, il est méchant, il est moche. D'autres disent que c'est une maison abandonnée, donc on peut faire ce qu'on veut. Et puis un jour, en jouant en ballon, ils cassent une vitre de la maison. Et là, ça complique leur situation. Ils ont encore plus peur de rencontrer le propriétaire, si bien qu'il existe. Mais ils ont quand même envie de récupérer les ballons, donc ils osent, ils affranchissent, ils toquent sur la porte, ils poussent la porte. Et là, ils rencontrent le propriétaire. Et ils découvrent que le propriétaire n'a rien à voir avec leurs idées préconçues. Au contraire, il est plutôt gentil, il est accueillant, il les invite, il leur rend le ballon. Et à partir de là, commence une belle amitié entre ses enfants et le propriétaire. Et ils aiment bien jouer chez lui. Et ils découvrent que lui-même était un célèbre joueur. Et ils commencent à jouer ensemble. Et c'est lui qui fournit le goûter tous les après-midi. Et là, le quartier est transformé. Alors ça, c'est l'histoire des enfants. Mais c'est notre histoire des adultes. Hein. On est avec la maison de Dieu. C'est peut-être là où vous en êtes ce matin avec Dieu. Vous dites, oui, il a abandonné notre monde. Je fais ma vie, mais cette maison est abandonnée. La demeure de Dieu, il n'y a plus personne. Ou vous dites c'est un fantôme du passé, comme une maison hantée. Notre monde est une maison hantée par Dieu, mais il n'est plus là. Ou vous avez ces idées qu'il est méchant et que vous ne voulez surtout pas le rencontrer, surtout pas entrer dans sa maison. Eh bien, ce matin, j'aimerais casser ces préjugés, j'aimerais vanter, comme disait le camp, je vais vanter les joies de l'hospitalité divine, puisqu'il veut nous faire vivre dans sa maison. En ce moment, on s'invite, on reçoit moins. C'est une des drames de l'époque Covid. Donc, ça va nous faire du bien de réfléchir aux joies de l'hospitalité divine. Et tout le livre du Lévitique, comme nous avons vu sur ces plusieurs semaines, c'est une tentative d'ouvrir l'accès, de nous ouvrir l'accès à la présence de Dieu, à la maison de Dieu. Mais les obstacles sont nombreux. Le saint et le profane, le pur et l'impur, le péché et la sainteté, la vie et la mort ne peuvent pas cohabiter ensemble. Alors Dieu a mis en place ce système lévitique, ce culte lévitique, autour de cette maison symbolique qui était le tabernacle dans le désert, comme un temple mobile, pour enseigner cette réalité qu'il voulait quand même les accueillir dans sa maison, mais on est au courant des obstacles. Et je rappelle un peu les titres de nos messages sur les 7 semaines. Si vous n'avez pas été avec nous, ce n'est pas un problème, vous allez très bien suivre ce matin. Dieu voulait amener ce peuple vers la demeure de sa sainteté, comme dit un verset. Mais il y avait ce problème de la vie et la mort ensemble, le péché et la sainteté ensemble. Donc il devait passer par différentes rites et cette religion juive. Donc il s'approchait vers la demeure par les sacrifices et les offrandes ou l'animal,
jouer un rôle de substitut en quelque sorte, et aussi par les sacrificateurs, où un homme représentait tout le peuple de manière un peu particulière. Ou bien il y avait par ces lois de pureté rituelle, ce qu'il fallait manger ou pas manger, les maladies, tout ça pour encore séparer la vie et la mort. Et après il y avait ce grand jour des expiations que nous avons étudié vendredi soir, où un jour dans l'année, une personne entrait, et ça, voilà, ça symbolisait cette approche et entrer dans la maison de Dieu. On a vu aussi qu'on s'approche de Dieu, qu'on peut vivre avec lui, qu'on est nous-mêmes purs et saints, donc l'appel à une obéissance personnelle, à une sainteté personnelle par des lois de pureté morale. Et puis il y avait les fêtes de l'Éternel que nous avons étudiées, ces fêtes juives annuelles qui rappelaient l'œuvre de Dieu pour les ramener à lui, pour les ramener dans son royaume, dans sa maison. Mais tout ça, on l'a senti, on le sait, tout ça, ça n'a pas vraiment marché. C'était incomplet, ce n'était que symbolique. Ça pointait vers, mais ça ne nous amène pas dans la demeure de Dieu, dans la demeure de sa sainteté. Mais ce matin, nous célébrons le fait que par sa résurrection, Jésus nous obtient la possibilité de vivre avec Dieu, dans la maison de Dieu pour toujours. Et c'est ça que j'aimerais célébrer. J'aimerais vous donner envie de goûter aux joies de l'hospitalité divine de sa maison. Alors, quand on est chez quelqu'un, quand on est bien reçu, quand on est bien accueilli, qu'est-ce qui fait que... D'où vient la charme de l'hospitalité française, de l'hospitalité tout court? Eh bien, c'est toujours un plaisir de voir la maison, de visiter la maison de quelqu'un. Ensuite, je reviens là-dessus... Ensuite, nous allons voir qu'on peut profiter du repos. Et enfin, nous allons voir que nous pouvons partager la communion. C'est ça l'hospitalité, c'est ça les joies de l'hospitalité. Découvrir la maison, profiter du repos et partager la communion. Tout d'abord, la maison. C'est un grand thème de Lévitique. D'ailleurs, on découvre beaucoup sur une personne quand on voit où elle habite, n'est-ce pas ? Quand on est accueilli chez quelqu'un, voilà, on voit les touches de créativité, les touches personnelles, on apprécie la maison, le terrain autour. En France, quelle est la première chose lorsqu'on fait, quand on reçoit des gens, on leur fait un tour de la maison. C'est magnifique. Alors ce matin, on va faire un tour de la maison de Dieu. Réfléchissons à la maison de Dieu. Est-ce qu'on veut y habiter ? J'aimerais vous donner envie. Et je vais m'appuyer sur ces trois points, juste les trois versets que nous avons lus en Lévitique. Tout d'abord, en verset 11, le premier verset, 26-11, Dieu dit « J'établirai ma demeure, ma maison, j'établirai ma demeure au milieu de vous, et mon âme ne vous aura point en horreur. » J'établirai ma demeure au milieu de vous. Ici, le mot hébreu, c'est souvent traduit « tabernacle ». Effectivement, Dieu a mis un tabernacle au milieu du camp, du peuple. Et le tabernacle, il faut le dire, était un endroit beau. Le tabernacle était un endroit lumineux, un endroit pur, puisqu'il fallait que rien de souillé, rien de sale, rien de mort entre dedans. C'était un endroit saint, c'était un endroit très beau. Tout le mobilier était fait en or. Le souverain sacrificateur, il entrait avec ses pierres précieuses, le reflet de la lumière, ça devait être magnifique à l'intérieur du tabernacle. Donc c'était un lieu plein de vie, on pourrait dire, puisqu'on écartait la mort. C'était un lieu plein d'art, très artistique. Mais ici, le verset 11 dit « J'établirai ma demeure au milieu de vous ». Et le chapitre 26 énumère les grandes bénédictions que Dieu a en réserve pour son peuple. Et on peut supposer que Dieu a en tête plus que juste ce tabernacle. C'est pour ça le mot ici traduit « demeure », parce que c'est une promesse future. Et on le sait, le tabernacle est hautement symbolique. Dieu n'habite pas vraiment dans une tente de 70 mètres carrés. Il n'y a ni la place pour lui, ni la place pour nous dans 70 mètres carrés. C'est la taille du premier appartement. Et déjà, à 4, 5, 6 personnes dans ma famille, c'était trop serré. Donc, visiblement, cette demeure, ce n'est pas la demeure finale, ultime. Et ce tabernacle pointait vers quelque chose de plus grand. Et vendredi soir, nous avons étudié avec le livre aux Hébreux que ce tabernacle était une maquette de quelque chose de céleste. Et j'aimerais revoir ça avec vous, cette fois-ci pas avec l'Hébreu, mais vous montrer que le tabernacle, et plus tard le temple, était une petite image du paradis. D'abord, un renvoi au jardin d'Éden, là où l'homme et Dieu demeuraient ensemble. On a commencé notre existence dans la demeure de Dieu, dans la maison de Dieu, en quelque sorte. Le jardin d'Éden était cette demeure partagée entre Dieu, le propriétaire, et nous, et tout le monde était bien. Et ceux qui ont étudié la Bible ont vu qu'il y a beaucoup de ressemblances ou des renvois dans la manière que le tabernacle était construit et disposé et le jardin d'Éden. Donc je vous ai listé rapidement quelques ressemblances entre le tabernacle et le jardin d'Éden. Mais il y avait les chérubins à l'entrée. Les chérubins étaient sculptés sur la voile du tabernacle, tout comme lorsque l'homme était chassé du jardin d'Éden, il y avait des chérubins qui bloquaient l'entrée. Il y avait la disposition est et ouest. Le jardin d'Éden, la porte était à l'est, et c'est là où les chérubins étaient posés. De la même manière, chaque fois qu'ils devaient disposer le tabernacle, c'était aligné est-ouest. Donc on s'éloignait, on sortait par un côté, et puis en allant vers l'est, on rentrait, on sortait. Dans le tabernacle, il y avait dans le jardin d'Éden, il y avait cet arbre de vie. Dans le tabernacle, il y avait ce chandelier qui était sculpté en forme d'arbre et qui rayonnait de sa lumière. D'autres ont remarqué que la vocation d'Adam, sa première mission, était de cultiver et de garder, de travailler et de garder le jardin. Et on va utiliser ces mêmes verbes pour décrire le travail des sacrificateurs, des prédicateurs dans leur maison, dans leur jardin en quelque sorte. Eux aussi devaient cultiver et garder le temple. Et enfin, je dirais l'emplacement sur un sommet, sur une montagne, est une ressemblance. Genèse dit que le jardin d'Éden, d'où quatre fleuves sortaient du jardin d'Éden pour arroser le monde en quelque sorte. Donc ça veut dire que le jardin d'Éden était déjà un sommet, était sur une montagne pour que les fleuves coulent et commencent là et coulent, arrosent le monde. Et de la même manière, le tabernacle a déjà été inauguré sur le mont Sinaï. Et plus tard, le temple va être situé sur le mont Sion, à Jérusalem. Et plus tard, c'est là où Jésus va mourir, sur cette montagne. Et à la fin de la Bible, on va retrouver cette haute montagne pour nous rappeler que quelque part, on monte toujours vers Dieu. Et quand on s'éloigne de lui, c'est comme une descente à Dieu. Et pour nous rappeler que Dieu, créateur des cieux et de la terre, il est en haut, il est assiégé sur son trône. Donc l'homme, pour le voir, a tendance de monter. Effectivement, beaucoup de scènes importantes dans la Bible ont lieu sur une montagne où Dieu rencontre l'homme. Donc, si vous voulez, si vous voulez creuser ça, regardez le vidéo ou le livre « Le jardin, le voile et la croix » qui nous a été présenté ce matin, ou le vidéo qui était diffusé vendredi soir. Et vous allez voir, effectivement, il y a le tabernacle et le temple plus tard. Vous voulez nous rappeler le jardin d'Éden. Récemment, en famille, nous avons regardé « La gloire de mon père » de Marcel Pagnol. Et la charme du livre vient de ses souvenirs d'enfance, de cette maison dans les collines. Cette maison dans les collines, c'était pour lui le bonheur, c'était les vacances, c'était tout ce qui est beau dans la vie, se trouver dans cette maison dans les collines. L'humanité aussi vit avec ses souvenirs de cette maison dans le jardin d'Éden, la maison de notre Père céleste, de notre Créateur. Et tant qu'on n'a pas retrouvé cette demeure, on le sait, on n'est pas véritablement arrivé, on n'est pas chez nous. Alors si vous avez à cœur la planète ce matin, si vous avez à cœur le bien-être des animaux, si vous avez à cœur la paix dans le monde, si vous avez à cœur l'anticorruption, si vous avez à cœur la santé et le freinage des virus, eh bien c'est parce que vous êtes originaire d'Éden, vous êtes originaire de cette demeure où effectivement il y avait la paix et la vie et l'harmonie et la créativité. Et vous savez au fond de vous qu'on n'y est pas, on a été exilé, banni. Mais même le jardin d'Éden était comme petit aperçu sur une petite échelle de ce que c'est que la maison de Dieu, que de demeurer avec Dieu. C'est pour ça que la Bible termine. Et toutes ces images depuis le jardin d'Éden et Lévitique et le Nouveau Testament terminent à la fin de, comme nous avons lu à la fin de la Bible en Apocalypse, où on nous fait un tour de la maison, la demeure parfaite de Dieu, la destinée éternelle de son peuple. Et c'est tellement beau de lire ces versets que nous avons lus, verset 22, et il dit je vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La Bible termine avec cette image où Dieu lui-même est notre demeure et nous sommes la sienne. Et cette cohabitation parfaite, il est notre demeure, nous sommes la sienne. Ou dans un autre sens, le monde entier, en Apocalypse, le monde entier, la création renouvelée, devient la demeure merveilleuse de Dieu, la maison de Dieu, et nous avec. Et tout cela grâce à Jésus, à sa résurrection. Jésus dit, nous avons lu en Jean, que sa mort et sa résurrection seraient comme une reconstruction du vrai temple. Il parlait du temple de son corps, et les disciples se sont souvenus qu'effectivement, il est ressuscité comme il avait dit, et sa personne devient notre temple, ce lieu, où, ce moyen d'entrer dans la maison de Dieu. Juste avant de mourir, Jésus avait dit à ses disciples, je vais partir, par sa mort et sa résurrection, mais je vais partir vous préparer une place. Il y a beaucoup de maisons dans la demeure de mon Père. Et je vais vous préparer une place afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ça, c'est le projet de Jésus. Et il l'a accompli réellement par sa mort et sa résurrection. Donc, j'espère que cette maison ne vous fait pas peur de vivre avec Dieu. Mais c'est une magnifique maison quand on pense un peu au Jardin d'Éden avec ses délices. C'est quand on voit notre destinée éternelle. Venez dans la maison. Mais il n'y a pas que ça, il y a le repos. Profitez du repos. Après le tour de la maison, quand vous êtes invité chez quelqu'un, qu'est-ce que vous faites après? Lorsque vous bénéficiez d'une hospitalité charmante, d'une intendance parfaite, et bien vous vous asseyez, vous mettez les pieds sous la table, comme on dit. C'est la détente, c'est le repos. Alors, la politesse voudrait qu'on demande chaque fois, est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider? À l'hôtesse. Mais elle répond toujours, non, non, tout est bien, tout est prêt. Assis-toi, repose-toi. Alors, tout le monde rêve d'une grande et belle maison, mais des fois, il faut être réaliste. Quand on pense au ménage, à l'entretien, au coût de réparation, au stress et fatigue que peuvent inclure une grande et belle maison, une grande demeure, là, on dit, oui, mais je préfère le petit appartement. Si on pouvait avoir et la belle et grande maison et le repos, la détente totale, ça serait le comble. Eh bien, c'est ce que Dieu offre ici. C'est un thème majeur du Lévitique et de la Bible. Donc déjà, il dit en verset 11, « J'établirai ma demeure au milieu de vous. » Et là, je saute à verset 13, il dit, « Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte, qui vous ai tiré de la servitude. J'ai brisé les liens de votre joug et je vous ai fait marcher la tête levée. » Voilà, Dieu, le thème c'est Dieu, je vous ai sorti de l'esclavage, du dur labeur pour vous faire entrer dans le repos. Donc sa maison c'est aussi une maison reposante. Et pour cela, tout au long du Lévitique et tout au long de la Bible, Dieu a utilisé la notion du sabbat et le chiffre 7 comme nous avons vu dans la vidéo. C'était très intéressant de voir comment tout ça nous ramène aux premières semaines de la création, où tout tourne autour de sept jours. Et puis, le dernier jour de la création, c'est le jour du repos, le Dieu se repose. On dit parfois que la culmination de la création, c'est ce sixième jour avec la création de l'être humain, la création de l'homme, ou encore mieux, la femme qui... Voilà, où Dieu met toute sa créativité, tout son art, toute sa beauté. Mais... encore mieux, encore plus grand, dans un sens, c'est le septième jour, la suite. Parce qu'une fois que tout est merveilleux, tout est créé, il y a ce septième jour où Dieu se repose. Et on sait que Dieu a fait ce jour aussi pour l'homme, pour que Dieu et l'homme soient ensemble. Il faut rappeler que nous, en tant qu'être humain, nous avons commencé notre existence dans la présence de Dieu, mais aussi dans le repos de Dieu. Et c'est... Voilà, ce septième jour, c'était le cadeau ultime de la création, non seulement un monde merveilleux, mais de pouvoir être avec Dieu le septième jour, dans un repos céleste où tout était bien, notre paix était infinie. Ça, c'est le comble, ça, c'est le but, se reposer avec Dieu dans sa présence. Et maintenant, vous comprenez pourquoi Jésus ressuscité le troisième jour. Il a été crucifié la veille d'un sabbat, et puis il ressuscite le lendemain d'un sabbat, le huitième jour ou le premier jour d'une nouvelle semaine. Tout comme Dieu a achevé son œuvre de création, il s'est reposé. Christ a achevé son travail et il s'est reposé. Et puis, il a inauguré un repos permanent pour nous. Quand Dieu donne les 10 commandements la première fois en Exode 20, il dit qu'il faut respecter le sabbat pour se rappeler de la création, les 7 jours de la création. La deuxième fois que Dieu donne les 10 commandements en Deutéronome 5, la raison qu'il donne, c'est parce qu'il les a fait sortir de l'esclavage, du dur travail en Égypte, et ils peuvent se reposer pour se rappeler de ce salut. Et là, la croix, la résurrection, résume ces deux images. Et Jésus crée une nouvelle humanité, une nouvelle création par sa résurrection. Il nous donne un repos permanent parce que lui, il a tout travaillé. Et il nous libère aussi de l'esclavage du péché. Nous n'avons plus maintenant, nous, rien à faire. Nous n'avons pas à travailler pour mériter notre salut. C'est tellement reposant pour notre conscience. Croire en Jésus, c'est se reposer en lui. C'est pas lui demander « qu'est-ce que je peux faire pour t'aider à me sauver ?» Non, c'est accepter qu'il a tout travaillé comme vous faites lorsque vous allez chez quelqu'un et vous bénéficiez du repas déjà préparé, la maison est déjà rangée. Voilà, vous recevez ses grâces et c'est ça les joies de l'hospitalité. Et enfin, nous allons voir, le but c'est de partager la communion. C'est ça qui est beau dans un accueil, dans un moment chaleureux d'hospitalité. La vraie joie, c'est pas juste le cadre. On peut s'émerveiller de la maison de quelqu'un. C'est pas juste le fait d'être reposé dans la détente. Tout ça, c'est des moyens vers une fin. Et le but, c'est le partage, c'est la communion, c'est de se voir face à face, c'est de faire connaissance, meilleure connaissance. C'est pour ça que dans notre Église, on encourage les moments de repas partagés, l'hospitalité, parce que autour d'un repas, vous allez apprendre à connaître l'autre d'une manière beaucoup plus profonde. Même vous pouvez passer des années à vous croiser ici dimanche matin, mais si vous prenez un temps ensemble autour d'une table, vous allez vraiment faire connaissance. C'est ça qu'on peut faire avec Dieu. Et là, c'est sa promesse ici. J'établirai ma demeure, oui. Mais il dit en verset 12, je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Je marcherai au milieu de vous. Là, ça parle d'une communion. D'ailleurs, même nous, après un bon repas, souvent avec des amis, qu'est-ce qu'on va faire? On va marcher ensemble, on va se promener ensemble pour discuter, pour partager. Et c'est l'image ici, je vais marcher au milieu de vous. Une autre scène du Lévitique qui capte cela si bien, et c'est devenu peut-être un de mes préférés du livre, c'est en chapitre 24, juste avant. Je vais vous lire les versets 4 à 8. Lévitique 24, 4 à 8. Donc, le travail des sacrificateurs devait entrer dans le lieu saint. Et verset 4, il arrangera les lampes sur le chandelier d'or pur pour qu'elles brûlent continuellement devant l'Éternel. Il prendra la fleur de farine et tu en feras 12 gâteaux. Chaque gâteau sera de 2/10. Tu les placeras en 2 piles, 6 par pile, sur la table d'or pur devant l'Éternel. Tu mettras de l'encens pur sur chaque pile et il sera sur le pain comme souvenir, comme une offrande consumée par le feu devant l'Éternel. Chaque jour de sabbat, on rangera ces pains devant l'Éternel continuellement. C'est une alliance perpétuelle qu'observeront les enfants d'Israël. Dans le temple, je voulais vous montrer ici, il y avait cette table et il devait, d'après un autre passage, il devait faire en sorte que la lumière éclairait en face du chandelier et éclairait la table des pains de proposition. Et donc, il y avait 2 tas de 6 pains qui représentent clairement les 12 tribus d'Israël qui sont là dans la maison de Dieu, dans l'intérieur, avec cette lumière qui les éclaire. Et c'est une magnifique image de la manière que Dieu veut éclairer de sa lumière, de sa présence, son peuple. Et il voulait que son peuple habite dans sa lumière, dans sa présence, dans le repos. Et le fait que le sacrificateur, il devait renouveler les pains, cette cérémonie, tous les sabbats, rappelait aussi que voilà, on vit dans le repos constant avec Dieu, éclairé de sa lumière, à table avec lui, dans la bénédiction et le repos total. cette petite scène qui vivait de sabbat en sabbat avec les pains éclairés par la lumière, c'était une manière imagée de résumer la grande bénédiction que les sacrificateurs prononçaient sur le peuple, que vous connaissez peut-être en Nombre chapitre 6, que l'Éternel te bénisse et qui te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qui t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qui te donne la paix. De manière imagée, c'était ça, la lumière sur les pains. Et c'est ça que nous voulons. Et c'est exactement ce qu'il décrit Apocalypse chapitre 22. Les derniers versets de la Bible, ils verront sa face et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, ils n'auront pas besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Vous voyez, enfin arrivé dans la demeure de sa sainteté, la Bible décrit cela à la fin. Tout cela grâce à la résurrection. Donc, encore ce matin, Jésus nous invite, il a ouvert l'accès à sa maison. Lévitique nous a aidé à comprendre un peu, mais voilà, l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Et puis le message avec lequel termine la Bible, c'est entrer dans la maison de Dieu, entrer dans son repos, entrer dans une communion, une amitié, une relation parfaite avec lui. Savez-vous ce que Jésus a fait à plusieurs reprises pour se montrer à ses disciples le matin de la résurrection ? Il les a accueillis pour un repas, ou bien il s'est invité chez eux pour prendre un repas. Ce matin, il aimerait bien vous accueillir pour un repas avec lui. Il aimerait bien s'inviter chez vous pour vivre, lui dans votre maison, vous dans la sienne. Que nous puissions profiter de cet accueil d'un Dieu qui nous tend encore ce matin la bienvenue. Prions. Seigneur, merci pour ce chemin que nous avons parcouru dans le livre de Lévitique. Merci pour cette culmination en ce jour de résurrection. Nous te remercions de ce que Jésus est mort et ressuscité pour nous conduire dans ta maison, pour nous offrir la possibilité de vivre avec toi pour toujours. Que chacun de nous puisse saisir cette invitation et jouir de cet accueil si chaleureux. Merci pour ce temps de culte que nous avons vécu ensemble. Réjouis tous nos cœurs en ce jour de résurrection. Je prie ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen.